I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière sympathique et amusante l'actualité de la tech. On résume, on lit, on écoute, on écume tout ce qui se passe dans cette industrie fascinante et on vous résume ça en une petite heure environ. Donc non seulement on explique aux gens qui n'y connaissent rien, mais en plus on essaye de faire des analyses intéressantes pour ceux qui connaissent et en plus on essaye d'être distrayant pour tout le monde. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais on essaye en tout cas. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de Twitter qui voudrait faire un réseau décentralisé. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Qu'est-ce que ça voudrait dire? On va vous dire ça. On va aussi parler des nouveaux Mac à 50 000 euros, voire plus. On va parler d'Intel, de Microsoft, de plein d'autres petites news de la tech, de ransomware. Et pour faire tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Marion. Comment ça va, Marion? Est-ce que tu es en forme?
Bonjour, bah oui, j'ai la forme, je suis contente de vous retrouver et contente, là on a des sujets assez intéressants là aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il va y avoir des choses dont on va pouvoir discuter. Et oui. À côté de toi, c'est pas le Jeff habituel parce que j'ai eu une nuit un petit peu compliquée avec le petit, donc on a changé l'horaire et heureusement, tel un Avenger, un Zorro de la tech, Ulrich Rosier est venu se joindre à nous pour discuter de tout ça, pour remplacer Jeff. Comment ça va, Ulrich?
Ça va bien et c'est toujours un plaisir, toujours disponible.
Ah, merci, c'est gentil, j'apprécie.
Moi, je retiens le Zorro de la tech. Hein.
Oui.
Le Zorro de la tech? Non, j'ai essayé de réfléchir aux conséquences d'être un Zorro de la tech. J'aime bien l'aspect, je défends le peuple, mais...
Oui, est-ce que ça correspond? Alors, qui de humanoïde, frandroïde ou numérama défend le... Je ne sais pas qui correspond
en tout cas,
à cette description.
Je sais qu'on a des valeurs qu'on essaye de défendre, qui sont des valeurs... par exemple, numérama va défendre beaucoup... la position de la femme dans le numérique, enfin la place de la femme dans le numérique, ça c'est des missions qui sont fortes, tu vois.
Ouais.
Mais je sais pas si ça correspond à un Zorro.
À Zorro, oh,
pas du tout.
Une
Zorro peut-être.
Peut-être, oui, c'est vrai. Frandroid, ça serait défendre Android face au méchant Apple, peut-être.
Pas vraiment, parce que maintenant on a une vision assez agnostique, surtout avec le nouveau Frandroid. Mais Frandroid, c'est plutôt essayer de bien conseiller les gens et ce qu'ils ne fassent pas d'erreur lorsqu'ils achètent un produit tech ou ils s'abonnent à un service.
Bon, alors en tirant un peu par les cheveux, ça veut dire que tu défends ton public face aux méchants marketeux qui essayent de les arnaquer.
Ouais.
Bon, je sais pas si ça correspond.
C'est un Robin des Bois qui permet de faire des économies. Ah non, même pas un Robin des Bois, ça voudrait dire qu'on pique aux riches industriels.
C'est un voleur.
Un voleur. Je sais pas, un Robin des Bois.
Ouais, bon, ok, donc mon analogie ne fonctionne pas du tout, mais c'est vrai, tu l'évoquais, il y a le nouveau Frandroid, on en parlera peut-être tout à l'heure. Avant ça, on va vous parler de Twitter et du reste. Et bien sûr, je voudrais remercier les soutiens de l'émission, et notamment spécifiquement Woutak, Mathias Kahn, Christophe Pichon, Elsa, Frédéric Convert, Alice Pesselin, Feu Premier, FE, c'est peut-être pas le feu, mais c'est feu, et Yoni Lassery. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir, de s'engager, d'être actifs dans leur appréciation de l'émission et des médias en soutenant le Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech. Alors, premier sujet qui est assez riche, c'est cette déclaration de Jack Dorsey, le président de Twitter, qu'il va fonder une petite équipe de 4 ou 5 personnes qui vont étudier la faisabilité du projet Blue Sky, qui est d'étudier donc la faisabilité de créer un standard décentralisé pour Twitter et de faire en sorte que Twitter soit l'un des utilisateurs des données qui sont sur ce standard. Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre quand on n'est pas adepte de la tech, donc je vais détailler la chose. En fait, aujourd'hui, Twitter et la plupart des sites et la plupart des services et des réseaux sociaux sont très centralisés, c'est-à-dire qu'il y a un propriétaire ou un administrateur des données qui en est aussi le traitant, qui va traiter les données, qui va traiter le login, qui va traiter l'identité des personnes qui émettent et reçoivent ces données. Et donc, tout est sur leur serveur et personne d'autre ne peut les utiliser. Ça, c'est une idée qui est très utilisée aujourd'hui sur le web. La plupart des choses sont centralisées sur les serveurs d'une société généralement, ou en tout cas d'une organisation. Mais le web n'a pas commencé comme ça. Il y avait cette idée de décentralisation. D'ailleurs, la nature même de l'infrastructure du web, c'est la décentralisation, de manière à ce que si un point central, ou en tout cas un point est désactivé, le reste du réseau fonctionne quand même. Et bien là, si Twitter est désactivé, si leur serveur tombe, alors ils ont de la redondance, donc c'est pas facile, mais ça arrive de temps en temps, si Twitter tombe, et bien Twitter, dans son ensemble, ne fonctionne plus. L'idée décentralisée de ce projet, ça serait d'avoir un ensemble de standards, en fait, de protocoles ouverts, qui seraient utilisables par tous ceux qui veulent les utiliser, pour émettre et afficher, enfin pour émettre et traiter les données. Les données, c'est les messages de qui sont sur Twitter, donc les tweets, les mises à jour avec les photos, tout ce qu'on peut envoyer comme données sur Twitter. Donc ces données seraient utilisables par n'importe quel n'importe quelle société ou organisation qui voudrait les afficher à ses utilisateurs. Et si vous ne comprenez pas bien la manière dont ça fonctionne, c'est un exemple que j'ai pris par le passé, pensez un petit peu aux mails. Vos mails, vous avez des logiciels pour les écrire et pour les lire, mais les mails eux-mêmes ne sont pas centralisés sur un seul réseau, sur un seul service, sur un seul serveur. Et le mail, il y a donc différentes sociétés qui exploitent ce protocole, mais pas un seul. Vos mails, par exemple, écrits sur Gmail, ne sont pas traités exclusivement sur Gmail. Il y a un commentateur qui a fait une comparaison que je trouve assez juste, toujours avec Gmail, c'est Sriram Krishan, qui a travaillé chez Twitter, chez Facebook, qui est venture capitaliste aujourd'hui, et il a dit « Imaginez si Gmail était le seul client qui avait été développé pour envoyer des mails. Eh bien, Gmail aurait pu définir tout ce qui faisait l'email, c'est-à-dire par exemple, qu'est-ce qui est du spam et qu'est-ce qui n'en est pas. Ça serait juste Gmail qui déciderait qu'est-ce qui est du spam et qu'est-ce qui n'en est pas. Alors que dans le système actuel, avec les mails, eh ben, on a différents clients qui vont utiliser ces mails. Et donc, le fait que Gmail décide qu'est-ce qui est du spam, ça n'a pas des enjeux sociétaux énormes. Parce que si on n'aime pas la manière dont Gmail classe les emails, eh ben, on peut aller utiliser un autre client. Donc, même si, bien sûr, il y a différents clients mails qui ont plus ou moins de pouvoir, Gmail en a beaucoup, ce n'est pas le seul. Et donc, la responsabilité de Gmail dans ce domaine n'est pas monumentale. Ou en tout cas n'est pas la seule entité qui peut être responsable de ce genre de décision. Et là, bien sûr, on touche à ce qui changerait pour Twitter s'il y avait un ensemble clients pour les réseaux sociaux de type Twitter, c'est-à-dire que Twitter afficherait simplement les tweets pour vous avec ses recommandations, ses algorithmes, ses modérations, et toutes les décisions que prennent Twitter. Mais si vous ne voulez pas, si vous n'appréciez pas la manière dont Twitter fait les choses, eh ben vous pouvez aller choisir un autre client qui gère les choses différemment. Alors, soyons clairs, c'est un projet qui est vraiment un projet qui vient de commencer. On n'a pas du tout idée de quand ça pourra être implémenté, de quand ça pourra arriver, ou même si ça arrivera également. Mais c'est une idée intéressante et qu'on peut étudier. On pourrait voir les conséquences que ça pourrait avoir. Il faut noter aussi, évidemment, et j'entends les libristes qui sont déjà frustrés que je ne l'ai pas mentionné dans cette explication, ce type de réseau existe déjà. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Mastodon, qui est exactement cette idée. C'est-à-dire que c'est un ensemble de standards et de protocoles qui permettent de créer, entre guillemets, son propre Twitter et qui sont fédérés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs instances différentes qui peuvent se parler entre elles. Donc, on peut envoyer un message à un utilisateur d'une autre instance, même si on n'est pas inscrit sur la même. C'est une interopérabilité complète. Et chaque instance peut décider de la manière dont il gère le contenu et peut décider de bloquer d'autres instances. S'il y a une instance qui gère le contenu d'une manière qui ne lui plaît pas, eh ben, il peut dire bah, cette instance, on ne peut pas communiquer avec elle, mais tout est libre, tout est ouvert, tout est géré par chacune de ces instances. Et ça a des conséquences importantes dont on va sans doute parler maintenant. Je vais ouvrir je vais passer le micro à mes invités. Peut-être Marion, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée de Blue Sky qui est en train de développer Twitter? Oui, entre parenthèses, je dis une dernière chose. Jack Dorsey a bien précisé qu'ils vont étudier la possibilité d'utiliser un protocole déjà existant, donc peut-être le protocole de Mastodon. Peut-être qu'ils vont se dire, bah, on va juste devenir une instance du protocole Mastodon. Ou alors, est-ce qu'ils vont devoir recréer un truc de zéro? On ne sait pas encore. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Est-ce que ça a des avantages, des inconvénients, Marion?
C'est assez intéressant. Et puis, lire tout le fil Twitter de Jack Dorsey est assez intéressant en soi. Ce qu'on reproche depuis pas mal de temps, ces derniers mois, ces dernières années aux réseaux sociaux, c'est justement qu'on se retrouve avec des sociétés tech qui décident du discours, de ce qui est modéré. C'est ce que tu disais hein, sur Gmail, qui décide qu'est-ce qui est un spam, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ben, ces grandes sociétés tech, pareil, qui décident qu'est-ce qui est accepté ou pas en termes de langage, communication, contenu sur ces plateformes de réseaux sociaux.
Ils ont un peu la main sur la censure, et parfois ils exactement. En font trop, et parfois ils n'en font pas assez, et personne n'est d'accord. Mais
personne n'est d'accord parce qu'on n'a pas la même sensibilité, la même définition dans tous les différents pays. Voilà, ça sera
et
pas
même au sein d'un même pays, je dirais, ouais.
Tout à fait, au sein d'un même pays, mais c'est vrai que l'exemple qu'on voit, c'est l'incompréhension entre les États-Unis et la France sur la liberté d'expression et la liberté de chacun, etc. Il y a aussi la Chine, comment ça se passe dans un pays où le discours est modéré, etc. Et donc là, justement, il permettrait, avec ces différents serveurs, ces différentes instances, de se déresponsabiliser concernant vraiment ce contenu, comment modérer le contenu, ce serait plus du tout à Twitter de gérer ça. En gros, ils disent bah maintenant, vous démerdez, quoi.
Oui et non, c'est-à-dire que Twitter aurait sa version du réseau, donc on va sur Twitter, c'est Twitter qui décide ce qui s'affiche là, mais étant donné qu'eux ne sont pas les custodians, les responsables du contenu lui-même, si on n'aime pas la manière dont le gère Twitter, on peut aller regarder le contenu ailleurs, et donc tout le poids de la responsabilité n'est pas sur Twitter.
Exactement, c'est ça. Donc c'est assez malin. Maintenant, en pratique, à voir comment ça fonctionnerait, je ne suis pas très très certaine. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que c'est assez rigolo de voir Jack Dorsey revenir sur la centralisation de Twitter qui avait fait grand bruit. Moi, je me rappelle, d'avoir les différents clients Twitter où on avait différentes apps qui permettaient d'utiliser Twitter avec ses différentes fonctionnalités, etc. On pouvait chacun l'utiliser vraiment avec sa propre app, et au fur et à mesure qui ont fermé les robinets et fermé les API, et qui ont limité grandement et fait couler certaines sociétés qui utilisaient l'API Twitter pour leur propre business, parce qu'ils avaient construit un produit sur Twitter, sur l'API Twitter, quoi. Donc là, ouais. Je sens la communauté qui serre les fesses, qui est un peu frileuse et a un peu à raison aussi.
Il l'a même mentionné effectivement dans son thread Twitter, et il disait bon, à l'époque on a été vers plus de centralisation pour une certaine raison, Et maintenant, il y a d'autres raisons qui font que... Bon, il a juste dit, oui, ok, on sait, quoi. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des raisons d'aller vers moins de centralisation. Et d'une manière générale, je crois que si on demande aux gens qui sont au fondement du web, la plupart d'entre eux vont vous dire, ah bah oui, moins de centralisation, c'est plus de liberté, donc c'est bénéfique. Je te tends un petit peu la perche, Ulrich, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais est-ce que tu serais d'accord pour dire que si on a un réseau Twitter plus décentralisé ou des réseaux Twitter-like plus décentralisés, ça sera une bonne chose?
Bah, effectivement, moi je pense que, enfin, c'est ma position et c'est des choses que je défends. C'est-à-dire que déjà, alors, Mastodon est un sujet que j'avais beaucoup suivi. On avait fait un serveur Mastodon sur Numerama qui a été beaucoup utilisé, qui a vraiment très bien fonctionné. Donc c'était vraiment intéressant de voir comment ça s'est mis en place et les interactions, etc. Il faut dire que Mastodon est basé sur un standard qui est ouvert, recommandé par W3C, qui s'appelle ActivityPub, donc qui est disponible, qui est déjà utilisé par des services de streaming de musique, d'hébergement, des plateformes d'hébergement de vidéos. Enfin, c'est un standard qui est recommandé par la W3C. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi avec la réflexion autour de la blockchain. Et tout ce qui est décentralisé comme ça, je trouve que ça va dans le bon sens. On a beaucoup d'entreprises en ce moment qui sont en train de se construire sur de la blockchain et donc qui ont un fonctionnement qui va être décentralisé. Et je trouve que, justement, au lieu de donner le pouvoir à des actionnaires, etc., on donne le pouvoir aux utilisateurs. Et je trouve que, finalement, sur des services comme Twitter, qui sont devenus des services essentiels pour communiquer, lorsque tu as Twitter qui sont obligés de réagir face à la censure dans certains pays, face à l'utilisation abusive que peuvent avoir des organisations, des associations et des entreprises de leurs services, je trouve que c'est une réponse, en tout cas c'est une réflexion qu'il va falloir pousser, et j'espère que ça va amener à un vrai projet qui va être déployé, parce que peut-être qu'en faisant ça, ils signent peut-être les 15 ou 20 prochaines années de Twitter, donc je trouve que c'est des réflexions très, très pertinentes, quoi. Et ouais. Moi je suis pour aller vers ça, en tout cas.
Alors, je vais prendre le contre-pied du coup, parce que, bon, un petit peu pour le principe, comme les auditeurs le savent, j'aime bien me faire l'avocat du diable et offrir un autre point de vue sur ce genre de sujet, mais aussi parce que je crois qu'il y a une sorte de sacralisation de la décentralisation et qu'on a tendance à ne pas voir les effets néfastes que peuvent avoir ces méthodes ou ces infrastructures. Bien sûr, il y a des avantages comme ceux que tu as cités, mais il y a aussi des inconvénients massifs, comme par exemple le fait que, pour moi, Twitter, dans cette affaire, et Jack Dorsey, cherche à un petit peu se dédouaner de manière qui n'est pas forcément maléfique, mais il veut ne plus avoir à ce qu'on l'emmerde pour les questions de responsabilité sur le contenu. Et il a raison, parce que c'est un problème insoluble, mais en même temps, il déporte le problème et il amplifie le problème vers la décentralisation. C'est-à-dire que c'est déjà ce qui se passe avec Mastodon. Ça ne veut pas dire que le contenu haineux, par exemple, disparaît de Twitter, ou peut-être qu'il disparaîtra de Twitter, mais il va juste être déporté sur d'autres instances qui auront des méthodes de modération différentes. Et comme je le disais, c'est déjà le cas sur Mastodon, il y a un réseau qui s'appelle Gab, qui est... Alors, qui va vous dire, nous, on est pour la liberté d'expression, et c'est généralement ce que disent ceux qui veulent pouvoir dire des choses qu'on ne devrait pas pouvoir dire, comme par exemple l'incitation à la haine, notamment. Mais il y a des choses qui sont également peu recommandables, mais c'est l'un des éléments. C'est-à-dire que souvent, quand on pense à Twitter et aux défauts de Twitter, on pense au harcèlement, à l'incitation à la haine raciale, à l'incitation à tout type de haine. Et on se dit, ah bah effectivement, du coup, décentraliser, plus de liberté, on a tendance à associer l'idée à quelque chose de très positif. En réalité, à mon avis, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Il va y avoir des réseaux pour toutes les sortes de personnes peu recommandables que vous pourrez imaginer. Et du coup, Twitter pourra dire, ah bah... Nous, pas notre problème. De toute façon, nous, on n'est que l'un des clients pour ce protocole. Donc, après, s'il y a des trucs qui se passent de votre côté, nous, ça ne nous concerne pas.
Mais on l'a vu déjà, ce problème avec Mastodon. Il y avait un problème de financement des serveurs. Qui finance ces serveurs? Comment on finance ces serveurs-là? Donc j'imagine que Twitter, qui repose essentiellement sur la publicité avec une régie interne, etc., ça va être intégré dans cette réflexion de comment ils construisent leur plateforme de décentralisation. Il y avait un autre aspect qui est important, qui est l'usurpation d'identité. Il faut savoir que Twitter, ça fait deux ans qu'ils ont bloqué le système qu'on appelle de certification des comptes Twitter. Donc c'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus avoir son compte certifié. Et ils l'ont bloqué parce qu'ils n'arrivaient pas à le gérer. Il y avait des abus et il y avait justement de l'usurpation d'identité. Des gens arrivaient à faire valider un profil alors que ce n'était pas eux derrière, ce n'était pas la bonne personne. Mmh. Donc je pense qu'il y a toutes ces réflexions-là qui sont importantes et tu as raison. Il y a un vrai enjeu de contrôle, quoi. Mais c'est con de parler de contrôle et de décentralisation aussi.
Mais c'est ça. En même temps, peut-être que si tout est ouvert de cette manière, moi je me méfie de la décentralisation de la même manière que je me méfie de la centralisation, parce qu'encore une fois, on a des problèmes dans les deux, et la centralisation permet le contrôle qui pose aussi des problèmes. Mais en même temps, si je pousse un petit peu, si je sors un peu plus de ma zone de confort, je me dis, bon bah oui, il y aura des réseaux de nazis, de la même manière qu'il y a des sites de nazis, et on pourra au moins faire quelque chose. Et là, on revient peut-être à un peu de contrôle. On va se dire, bon, bah, ce réseau-là, il va trop loin. Donc, bah, on va juste pas interagir avec lui. Et donc, on va être sur un réseau qui correspond à notre idée de la liberté de parole et qui va pas autoriser n'importe quel type de haine. Et on va savoir, ah bah, au moins, c'est pas tout le monde est sur Twitter. C'est, ah bah, telle réseau, on sait à quoi s'attendre sur ce genre de réseau. Donc, on le consulte au moins un petit peu avec, comment dire, avec un petit peu de contexte. Mais en même temps, est-ce que ça pousse pas à plus de comment dire,
radicalisation?
Radicalisation, qui serait la deuxième étape d'une qui soit cloîtrée.
Ouais, c'est l'effet des bulles. Des bulles d'intérêt, en fait.
Des bulles filtrantes,
On va encore rester dans avec les personnes qui ont les mêmes opinions que nous, qui viennent du même cercle, etc., qui va ne faire que renforcer nos positions. Et on ne va pas forcément sortir, tu disais, de la zone de confort. Mais justement, on n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort. Et c'est un phénomène qui peut renforcer ça.
Mais ça, c'est une vision qu'on a de la décentralisation. Mais par exemple, la blockchain, qui est un modèle de décentralisation, etc., on a vu que ça pouvait aussi, dans certains cas, quand il y a certaines règles, amener à plus de confiance. Mmh. Donc, ça va dépendre des règles et du mode de fonctionnement de cette décentralisation. Mmh. Et,
c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait imaginer un réseau... En tout cas, encore une fois, je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, mais ce réseau Mastodon est fédéré, et on imagine que Twitter ira vers le même type d'organisation, c'est-à-dire que même si on est sur Twitter, on peut voir apparaître des messages de quelqu'un qui est sur un autre réseau. Et on peut imaginer certains réseaux qui gagneront en légitimité parce qu'ils auront des méthodes de classement et de vérification d'identité qui seront peut-être plus strictes. Et donc, quand on voit un message arriver de tel réseau, même si on est sur Twitter, on se dit « Ah ben, ceux-là, je leur fais un peu plus confiance. » Donc, au lieu d'avoir tout le monde dans le même pot qu'est Twitter, et il y a des bots et des machins et des trucs, et on ne sait pas qui est qui, on peut faire confiance à personne, et c'est le chaos permanent, peut-être qu'on pourra se dire « Bah oui, les gens qui viennent de Gab, de toute façon, c'est les nazis. » Alors, je caricature, mais bon, Gab, c'est un peu ça. Et puis, les gens qui viennent de là-bas, c'est des gens auxquels on peut faire confiance. Mais je ne sais pas. Moi, en même temps, j'ai une certaine tendresse pour Twitter encore aujourd'hui. On est en plein dans les grèves et dans les débats sur la retraite. Et j'ai eu des conversations, vous vous en doutez, assez animées sur le sujet sur Twitter. Il y a plein de gens avec lesquels j'étais pas d'accord, avec lesquels j'ai discuté. Et bon, on n'est pas forcément tombé d'accord, mais on a discuté de choses, d'idées de tel ou de tel bord. Certaines m'ont plu dans les deux bords, d'ailleurs. Mais au moins, on a confronté nos idées et on est arrivé à au moins parler, à mieux se comprendre. J'ai fait beaucoup d'efforts, et j'imagine qu'eux aussi, pour passer la réaction initiale de « Ah, oh, mais de toute façon, va te faire voir, je reste poli, hein. Va te faire voir, toi, je ne veux pas entendre parler de ce que tu dis », et ça, le ton est monté même parfois, mais en faisant un effort, j'en suis ressorti enrichi, je crois, au moins un tout petit peu. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur, cette idée de compartimentaliser, voilà, c'est le terme que je cherchais, les idées, mais ça veut... Mais peut-être que ça ne sera pas le cas. Après tout, sur, par email, bah on reçoit des emails de tous les clients mail et c'est possible. C'est juste que c'est un petit peu plus facile de classer les choses, peut-être. Je ne sais pas.
Et comment ça va impacter le business model de Twitter ?
Alors, c'est ça qui est également très intéressant. En fait, ce que la réflexion de Dorsey semble indiquer que la valeur de Twitter, d'ailleurs, je crois qu'il le dit mot pour mot, la valeur de Twitter, en fait, c'est... un service de sélection d'algorithmie qui va classer et décider quoi vous montrer, en fait. Et donc, la valeur du réseau, c'est presque une valeur de marque. Sur Twitter, on sait ce qu'on va avoir et donc, on va se diriger vers cette marque pour le contenu qu'il nous propose, le contenu qu'il fait remonter, la manière dont les personnes sont vérifiées, etc., etc. Et ils perdent un peu le poids qu'est toute cette responsabilité qu'ils ont sur le dos et ils ne gardent en quelque sorte, je schématise, hein, mais ils ne gardent que ce qui amène de la valeur, c'est-à-dire la manière dont ils traitent cette information. Ils n'ont pas la responsabilité de toute l'information en plus. Donc, c'est comme ça que je le vois.
Bon. Ouais, je me demande un peu comment ça va impacter... quand même les revenus, quoi. C'est quand même pas la plateforme la plus performante avec son business model aujourd'hui et j'ai l'impression que ça va aussi fragiliser la position de Twitter d'avoir un réseau aussi plus décentralisé.
Moi, je me demande comment ça se passe, leur comité, leur copie et leur conseil d'administration, quand t'as tous les actionnaires, puis t'as le PDG sur Twitter qui dit « Bon, on va partir sur la décentralisation
!» Ouais,
ça
c'est un petit
sympa,
peu
tu... l'ambiance.
Tu donnes la moitié de ton produit, enfin, tu abandonnes la moitié de ton produit, mais je pense que Twitter pose tellement de problèmes, c'est un petit peu comme Facebook, hein, mais il pose tellement de problèmes qu'il se dit on ne peut pas continuer comme ça, c'est juste un imbroglio qu'on n'arrivera jamais à démêler, donc il faut faire quelque chose. Et ça, c'est peut-être une solution pour ça. C'est certainement un truc qu'il voit dans son intérêt, dans l'intérêt de la boîte. Je ne pense pas qu'il fait ça parce qu'il se dit ça va rendre le monde meilleur, mais bon.
Ouais.
On verra. Voilà pour ces questions sur le projet Blue Sky de Twitter. Bon, on va faire une petite pause avant de passer au sujet suivant. Deux choses quand même à vous rappeler, à vous mentionner. D'une part, j'ai lancé le vote pour le jeu de l'année dans le rendez-vous jeu. Donc, si vous êtes un petit peu gamer et que vous n'écoutez pas l'émission régulièrement et que vous vous dites « Ah bah, je voudrais y retourner au moins pour cet épisode », allez voter déjà. Je vais mettre le lien dans les notes de l'émission vers le sondage. Allez voter pour votre jeu de l'année. Ça prend une minute si vous voulez répondre qu'à cette question-là, même pas. Donc, le sondage sera dans les liens de l'émission. Un autre truc que je voulais mentionner, c'est la sortie de l'épisode de Histoire de Daron, dans lequel je suis présent. C'est un podcast où on parle de sujets parentalité et de paternalité spécifiquement. Et c'est un épisode qui est particulièrement... Enfin, tous les épisodes d'Histoire de Daron sont sympas. C'est un podcast de Fabrice Florent. Mais cet épisode, évidemment, il me plaît beaucoup puisque c'est moi qui l'ai fait. Mais j'y parle de mon histoire de papa et des difficultés qu'ont posées les débuts des difficultés, pas juste mon fils va très bien, il est en très bonne santé, mais la difficulté d'avoir un bébé, et un bébé qui n'est pas forcément super facile, si ça vous intrigue, si vous êtes... Et c'est un truc dont on ne parle pas assez, en fait, je trouve. Tout le monde dit « Ah, oh, mais c'est tellement beau, c'est que du bonheur, machin. » Ouais, tiens, non, pas rien du tout. Et pour entendre ce que c'est vraiment, allez écouter Histoire de Daron, ce dernier épisode, je mettrai aussi les liens dans les notes de l'émission, parce que il faudrait qu'on en parle plus, je trouve, pour que les gens soient préparés.
C'est marrant, j'ai un collègue qui dit justement ça. On dit, les gens ont tendance à dire « Non, mais c'est génial d'être parent pour le premier. » Par contre, quand c'est le second, là, ils disent « Ah ben là, tu vas morfler, là. Là, ça va être difficile.
» Écoute, nous, on a morflé pour le premier. Si jamais il y a un second un jour, j'espère qu'on ne va pas doublement morfler. Mais,
est-ce que ce n'est pas la question qu'on pourrait poser à un créateur d'entreprise qui, plusieurs années après, on lui dit « Alors, c'est comment la création d'entreprise ? Est-ce que tu vas me lancer ?» Et toi, tu es en mode, quand tu as réussi, tu peux dire que tu as réussi, mais est-ce que tu parles de toutes les galères que tu as eues et toutes les.
Ah, c'est possible, ouais.
Il y en a beaucoup, il y en a énormément.
Écoute, peut-être qu'il faudrait faire un histoire de boîte où les gens vont parler de des débuts de leur boîte.
Il y a un truc qui me faisait rigoler, c'est Sergey Brin, etc., quand ils ont annoncé qu'ils quittaient Google et Alphabet. Enfin, il reste dans le conseil, mais il quitte l'exécutif. Ah, c'est très marrant. Ok, il est en train de me raconter l'alphabet Google. Très marrant.
Pas mal.
Il disait, Google, ça fait 18 ans qu'il est là. Du coup, maintenant, on considère que c'est un adolescent qui doit partir
de chez nous.
Ouais, un adulte qui doit partir de chez nous, quoi. Je trouvais ça marrant. Bon, bref, c'est une autre discussion.
Ça a quel âge, Frandroid?
Alors, la création du blog, c'est 2007, c'est 12 ans, quoi. Donc, le mettre à la porte.
Ouais, non, mais on s'en approche, hein, quand même.
On arrive sur les années les plus intéressantes.
Les plus intéressantes.
Je sens qu'il va se remêler.
Intéressantes, tu sais, Marion, c'est avec les guillemets, tu les entends dans la voix.
Exactement.
Écoute, on va tout décentraliser, ça va être plus simple.
Blockchain et Mastodon, c'est parfait. Bon, et je voulais aussi évidemment vous parler de du Patreon. Mais tiens, avant ça, je vais vous lire un petit commentaire de Pab83 qui a dit sur iTunes, quand j'ai fait un petit appel aux commentaires et aux étoiles sur iTunes ou sur tous les catalogues de podcasts, Pab83 a répondu présent, notamment, vous avez été plusieurs, donc merci beaucoup. Mais lui, il dit, j'écoute le Rendez-vous Tech depuis de nombreuses années. J'étais au lycée quand j'ai découvert ce podcast et j'ai continué à l'écouter sans ne manquer aucun épisode lors de mes études, et je l'écoute encore aujourd'hui alors que j'ai presque 30 ans. Il continue à dire des choses très très gentilles sur le présentateur, qui est passionnant à écouter car il traite les sujets avec une grande ouverture d'esprit et une vraie honnêteté intellectuelle. Bah écoute, merci beaucoup Pape83, je vous assure que c'est pas moi qui ai écrit ce commentaire, mais c'était très gentil de sa part et merci à tous ceux qui sont allés le faire. N'hésitez pas à le faire aussi sur iTunes si vous écoutez là-bas ou sur d'autres plateformes. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, si vous appréciez l'émission et que vous l'écoutez depuis un moment et qu'elle vous plaît aussi depuis plus de 10 ans comme Pape 83, ou même 1 ou 2 ans, ou comme vous le voulez, et vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement, avoir le flux spécial qui a le contenu additionnel et zéro pub, zéro promo. Et vous pouvez choisir d'autres niveaux de soutien plus élevés si vous le souhaitez. Donc, même un petit dollar par épisode ou 2 petits dollars par épisode, c'est énorme. Donc, patreon.com/rdvtech pour ceux qui le souhaitent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on va continuer avec les news et rumeurs. Je vais juste mentionner rapidement ce petit sujet. La Nouvelle-Orléans a déclaré l'état d'urgence suite à une attaque de ransomware vendredi dernier. Alors, on n'a pas tout à fait les détails. Visiblement, ils sont bien démerdés parce qu'ils ont eu une série de mails une avalanche de mails qui aurait pu devenir dangereux parce que c'était du phishing. Mais ils ont fait un training de cybersécurité cet automne, et donc leur leurs employés se sont super bien comportés et je pense qu'ils ont pu lever l'état d'urgence, mais tout le système était menacé et ça s'est bien passé. Et justement, pour les vacances, j'ai un épisode spécial qu'on avait déjà enregistré il y a un moment, qu'on avait commencé à préparer il y a bien longtemps avec Corben sur la sécurité. La sécurité dans son ensemble, on en parle de temps en temps régulièrement dans l'émission, bien sûr, avec des épisodes spéciaux. Mais là, on parle de différents sujets, dont les ransomware. Comment s'en prévenir, quoi faire si on a été infecté, qu'est-ce qu'un ransomware si vous ne savez pas ce que c'est. Donc la semaine prochaine, guettez le rendez-vous tech, même pendant les fêtes à Noël, il y aura un épisode intéressant. Et juste après ça, la semaine suivante, aussi pendant les fêtes, pour le nouvel an, il y a un épisode sur l'administration et la passerelle entre le monde de la tech et des startups et l'administration publique. J'ai parlé à Benoît Curdy qui a changé de métier. Vous le connaissez certainement, Benoît, si vous écoutez l'émission depuis un moment. C'est un serial entrepreneur qui est passé du côté de l'administration publique pour l'administration de l'aviation en Suisse. Et c'était hyper, hyper intéressant ce dont on a parlé. Donc voilà, c'est les deux épisodes spéciaux qu'on aura dans l'émission pendant les fêtes. Donc je pense que ça devrait vous intéresser. Bon, un sujet un petit peu léger et sympathique. Je suis sûr que vous avez vu ce nouveau Mac Pro qui est enfin disponible en précommande. Bon, c'est un ordinateur puissant, mais ce qui a fait les gros titres, c'est le fait que la configuration la plus chère, au-delà de l'écran à 5000 euros et pieds, des roulettes à 400 euros et de l'écran avec le truc en nanoparticules là qu'on ne peut nettoyer qu'avec le tissu que vous a fourni Apple. C'est un petit peu, ça fait sourire bien sûr, mais le prix maximum est de, je crois, 60 000 euros, dont il y a genre 30 000 euros de RAM, parce qu'on peut passer à, je sais plus, un truc ridicule, genre 150 gigas de RAM. Enfin, c'est
1,5 tera, je crois.
1,5 tera, oui, pardon, 150 gigas, c'est presque rien. 1,5 tera de RAM, ce qui est... Alors, la grande question, il y a bien sûr, ça relance les discussions, mais la grande question, c'est est-ce que c'est un prix ridicule? Ulrich, est-ce que toi, tu es allé acheter les 10 Mac Pro pour la rédaction à, peut-être pas le modèle à 50 000 euros, mais celui à 15 000, quoi, un bon marché, quoi.
Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que quand on a réduction à éducation, on a 10% de promo sur Mac Pro et ça devient tout de suite énorme sur 60 000 euros. Avec si on peut récupérer la TVA derrière, c'est encore...
Attends, sur le Mac Pro, tu peux avoir une réduction éducation ?
10 à 12%, ouais. Ouais, on peut l'avoir.
Pas mal, alors pas mal.
J'ai 33 ans, mais j'ai toujours mon compte.
On sent les gens qui sont parfaitement dans les clous, là.
En tout cas, moi, je trouve que c'est... On savait qu'elle serait chère, cette machine. C'est vrai que c'est un peu abusé, l'option de la mémoire RAM à 1,5 teraoctets. Je me demande combien elle coûte vraiment, cette mémoire RAM à Apple. Mais bon, passons ça. Ça, c'est un autre problème. Moi, je trouve que c'est une machine qui est fabuleuse. Quand j'ai passé... 3 quarts d'heure à regarder des vidéos en 4K de la machine. J'ai jamais vu une telle conception de tour de PC, on va dire, d'ordinateur. Impressionnant. Moi, je vous conseille de regarder quelques youtubeurs américains. Il y a même iJustine qui est sûrement moins intéressante que d'autres, mais elle a fait des très belles images en 4K. Et en fait, moi, j'étais impressionné déjà à la conception des machines. Incroyable. Ensuite, après, on avait déjà eu cette réflexion lors de l'annonce. C'est à configuration similaire en termes de puissance, etc. On arrive sur des PC qui sont pas si loin en termes de prix. Et surtout, la réflexion autour de cette machine qui est vraiment réservée à des studios, etc. J'ai même vu des gens qui avaient pris cette machine pour fournir de la puissance à plusieurs postes de informatique en même temps. Donc en fait, ça peut faciliter la maintenance, ça peut faciliter le fait de partager de la puissance en temps réel en fonction des besoins à ses collaborateurs, s'ils ont des calculs à faire très poussés, etc. En fait, je pense que ça nous dépasse un peu parce que c'est pas une machine grand public ni professionnelle comme on le fait. Mais a priori, les professionnels sont tous unanimes sur le fait que c'est une machine incroyable et qu'elle répond à un certain besoin.
Non, mais c'est exactement ça. C'est une machine, tu parles de studio, c'est cette idée qu'il faut retenir. Ce n'est pas une machine pour les pros, genre vous êtes professionnel de la comptabilité et donc vous êtes un pro, donc vous avez... Non, c'est un truc qui est effectivement une machine qui rentre dans des feuilles de calcul, genre on a des, bah justement des calculs graphiques à faire sur du rendu de montage ou d'image 3D, et avec une machine à 5000 euros, ça nous prend une heure de calculer notre scène de 2 minutes, et avec cette machine-là, ça nous prend 15 minutes au lieu d'une heure. Et donc, on gagne en productivité de 300% ou 400% en productivité, donc ça vaut le coup d'investir ce genre de somme. C'est vraiment purement sur ça.
MKBHD s'est amusé à faire de l'encodage 8K. Je sais pas si vous avez vu,
Il
a comparé à un iMac Pro. Je crois que l'iMac Pro était autour de 20 minutes, alors que c'était sur les configurations les plus hautes de l'iMac Pro, qui est également une machine très chère. Et le Mac Pro était autour de 4 minutes. Donc ça montre que c'est pas du tout les mêmes échelles, quoi.
Ouais. On passe de 20 à 4 minutes, et sur de la 8K, alors la 8K c'est extrême, mais c'est ça, c'est une machine pour les utilisations complètement extrêmes. Donc j'imagine, Marion, que Jérôme en a commandé 3.
Mais évidemment.
Nowtech...
Non, je pense qu'il en rêverait, tu vois, mais ouais. On n'a pas encore le budget là.
Pas encore. L'année prochaine, 2020, commencera bien
facile,
et finira bien.
Facile.
Bon, quelques petites news en vrac. Il y a Intel sur lequel on a des informations. Intel plutôt, il faut bien prononcer. On disait la semaine dernière que leur président avait fait une sorte de mea culpa. Et là, on a un partenaire qui a partagé une roadmap qui indiquerait qu'on est en train d'arriver à la possibilité d'avoir du 7 nanomètres en 2021, du 5 nanomètres en 2023. Je vous passe les autres. Et la roadmap estime pouvoir faire du 1,4 nanomètres en 2029. Alors là, c'est très loin, mais... Il semble que technologiquement, là, on arrive aux limites de la physique. Hein. On parle de quelques atomes mis ensemble pour faire une porte logique sur un processeur, mais on est à 1,4 nanomètres. Je ne suis même pas convaincu de la manière dont ça fonctionne, que ça peut fonctionner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bien engagés sur les 10 nanomètres enfin. 7 nanomètres, ça arrive. C'est une bonne nouvelle pour Intel parce qu'ils se font complètement bouffer par AMD, comme on l'a dit à plusieurs reprises. Et la concurrence est toujours bonne. Donc, on espère qu'Intel va pouvoir remonter dans cette course. Il y a Microsoft qui a annoncé sa nouvelle Xbox qui sortira l'année prochaine. On savait déjà que ça serait le cas, mais on a le nom et la forme. C'est la Xbox Series X. Un nom assez bizarre, mais bon, voilà, il va falloir vivre avec. Et qui ressemble vraiment à une sorte de petit PC qui va prendre un peu de place sous la télé. On a des données sur la réalité virtuelle qui a... était poussé par la sortie de l'Oculus Quest, qui est le casque que je recommande généralement si vous voulez choisir un seul casque. Ses utilisateurs ont dépensé 2,1 milliards de dollars sur du matériel en 2019. C'est une poussée de 31% d'une année sur l'autre. Donc la réalité virtuelle est en croissance. 31%, c'est pas mal. Mais il faut garder à l'esprit que 2,1 milliards de dollars, c'est quand même pas grand-chose par rapport au reste des marchés du matériel, de la technologie. C'est ce que fait, d'après les rumeurs qu'on a, les calculs un petit peu artificiels, Apple, sur le trimestre dernier, a fait 4 milliards de dollars rien que sur les AirPods. Sur les AirPods, ils auraient fait environ 4 milliards de dollars en un trimestre. Donc bon, voilà, il faut garder les choses dans leur contexte. Et Samsung a affirmé avoir vendu 1 million de la Galaxy Fold. Et là, tout le monde s'est dit, oh, il y a 1 million de personnes qui ont payé 2000 euros ou 2000 dollars pour acheter un Galaxy Fold qui en plus a l'air un petit peu cassé. Eh bien, en fait, non. Si vous avez vu ces gros titres, ils ont corrigé ensuite. C'était une estimation, mais qu'en fait, c'était ce qu'ils espéraient vendre, mais qu'ils n'ont pas dit qu'ils l'avaient vendu. Donc,
A priori, oui. 300 à 400 000, ils ont dit. Moi, ça m'a vraiment étonné, ce chiffre.
Oui, 1 million, ça faisait bizarre. Ouais.
parce que pour moi, c'est vraiment un produit vitrine qui est extrêmement cher, qui n'est pas abouti en tant que smartphone, mais qui aboutit en tant que technologie qui peut être commercialisée. On va dire ça, même si ça, c'est discutable. Donc, j'étais vraiment étonné. Je pense qu'il y a beaucoup de Coréens qui l'ont acheté et il y a beaucoup de journalistes qui sont équipés. Mais...
Oui, c'est ça. D'autres réflexions sur ces... quatre ou cinq petits sujets que j'ai couverts.
Ouais, j'avais une mini réflexion et après je laisserai la parole. Sur Intel, j'ai l'impression que c'est plus une annonce en mode c'est la panique. Il faut qu'on fasse une annonce parce qu'on est en retard et toutes les têtes pensantes sont parties chez la concurrence ou ailleurs parce qu'ils étaient mieux payés, parce que les perspectives étaient plus intéressantes. Donc moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Peut-être que je me trompe, mais voilà.
C'est un partenaire d'Intel qui a fait cette présentation à la conférence IEDM. Le partenaire s'appelle ASML. Il y a beaucoup d'acronymes. Et bon, c'est vrai que il est possible qu'il leur ait dit, bon, allez, faites passer ça, comme ça les gens ont de l'espoir. On sait pas. On verra dans quelques années si ça se révèle exact.
Et dernier petit commentaire sur la Xbox. Moi, je la trouve vraiment jolie parce que ça ressemble à une petite tour de PC et c'est vraiment ce que je recherche depuis des années. J'ai essayé de miniaturiser les composants d'un PC avec toute la puissance graphique d'une carte graphique tout en ayant un produit qui va s'intégrer beaucoup mieux dans un petit appartement parisien. Et en fait, je trouve que ça va dans ce bon sens-là. Mais par contre, elle rentre dans aucun meuble télé que je connaisse.
Donc, c'est le problème. Ouais.
Faire quelque chose, ils vont vendre un meuble télé avec. Mais bon.
C'est possible.
C'est intéressant là aussi le sujet de la réalité virtuelle là avec l'Oculus Quest qui booste les ventes en général et l'adoption en général de la réalité virtuelle. C'est ce qui manque un peu encore au domaine, hein. C'est vraiment avoir des usages clés et c'est pas un hasard aussi si Facebook a racheté notamment le jeu, la société qui faisait le jeu, c'est Beat Saber, je crois.
Oui. Mm-hmm.
Voilà, parce que justement avoir des bons exemples de success stories autour de la réalité virtuelle, des vrais usages, ça va permettre une adoption plus généralisée. Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'a priori, ça se développe quand même plus dans le domaine B2B, quoi.
C'est sûr. Bah, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. D'ailleurs, Magic Leap est un petit peu en train de jeter l'éponge, ce qui fait bien rire tous ceux qui ont. Bref, ceux qui connaissent Magic Leap savent de quoi je parle. Mais la réalité augmentée aussi beaucoup dans les domaines professionnels. On n'y est pas encore sur la réalité virtuelle, mais moi, ça met surtout l'accent sur l'Oculus Quest, qui commence à avoir le bon form factor, le bon format, c'est-à-dire un casque complètement autonome sans fil, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, et qu'on peut en plus connecter au PC pour avoir des applications ou des jeux surtout plus puissants, si on le souhaite. Mais cette option est là. Et vraiment, l'Oculus Quest est la première version où je me dis, ouais, là, c'est bon quand même, là, c'est bien.
Et moi, j'ai été bluffé par l'Oculus Quest dans un contexte précis. Bon, je change de casquette et en fait, j'ai testé la version bêta de Shadow sur l'Oculus Quest. Et c'était assez fou de se dire que sur un casque comme ça, j'ai un Oculus Rift à la maison, c'est le casque que j'ai acheté l'année dernière pendant le Black Friday et je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je suis très content de l'avoir. Et j'étais assez fou de voir que l'Oculus Quest, tu pouvais mettre un service de cloud gaming dessus et que ça tournait bien avec une latence suffisante, quoi. Je trouvais ça assez bluffant, quoi.
Ouais. Ouais. Voilà. Effectivement, j'ai fait le test. Bon, depuis la Finlande, ça fonctionnait, mais Shadow est en train de pousser la chose. Et là, on part un petit peu plus dans le jeu vidéo, mais ils sont en train de pousser la chose officiellement eux-mêmes. Je sais pas si tu l'as testé chez eux ou c'était avec une solution un petit peu faite de briques et de broc, comme c'était mon cas. Mais ils sont en train de pousser la chose, donc il y aura une solution officielle et ça va être hyper intéressant parce que ça arrive en même temps que leur nouvelle offre qui a des PC vraiment puissants. Chez Shadow et la sortie du jeu Half-Life Alyx le jeu ils ont dû sauter de joie chez Oculus quand ils ont vu cette annonce parce que ça
tout le monde
en même temps. Non mais pour eux parce que l'avantage c'est que du coup on a besoin d'un PC quand même très puissant pour faire tourner ce jeu en réalité virtuelle et beaucoup de gens n'en ont pas un assez puissant, mais si ça fonctionne avec un PC cloud, ça pourrait être quelque chose de vraiment marquant.
Toutes les plateformes ont besoin d'une vitrine et quand les gens me disent mais tu joues à quoi sur ton Oculus Rift, moi je disais je joue avec mes collègues Julien et Rémi à Star Trek et on fait comme si on était en train de gérer un vaisseau spatial. C'était, je pense, d'un point de vue extérieur, c'était assez grave à regarder. Et, mais disons que c'était pas une vitrine, j'avais pas de vitrine à donner. Mmh. Et je disais, ah, il y a le portage de tel jeu en VR. Je disais, ouais, bon, bah, c'est juste un portage. Ça manquait d'une vitrine, c'est un peu comme la Switch. Je disais, pourquoi t'achètes une Switch? Bah, c'est pour jouer à Zelda, à Mario Kart. Il manquait un jeu vitrine. Mmh. Je suis très content qu'il y ait des jeux qui arrivent, qui disent que c'est un. Qui arrivent en tant que. Voilà. On l'achète
en
pas.
Vitrine,
on l'achète pas un casque parce qu'on croit en technologie. On l'achète un casque parce qu'on a envie de jouer à certains jeux, quoi. Voilà.
Eh ben, on verra l'année prochaine si ça continue à se développer dans ce sens. Alors, encore d'autres news. Il y a un rapport intéressant qui a été rendu par des chercheurs qui ont utilisé des masques spécifiquement faits pour ça, mais pour déjouer des systèmes de reconnaissance faciale. Ce sont des masques 3D, bien sûr, de haute qualité. La société s'appelle Kneron, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais ils ont déjoué les systèmes de sécurité de services de paiement comme Alipay ou WeChat Pay, c'est des choses qui sont très utilisées en Chine, mais ils ont aussi déjoué les services de sécurité de l'aéroport de Schiphol, et c'est en Hollande si je ne m'abuse, et de services de train en Chine, et vous savez qu'il y a le système de crédit social en Chine qui vous interdit l'accès à certains services, et ils ont beaucoup implémenté les services de reconnaissance, enfin les systèmes de reconnaissance faciale. Donc le fait qu'on puisse déjouer ces systèmes, alors oui, c'est des masques de haute qualité qui ne sont pas disponibles facilement, ou plutôt qui coûtent cher à faire, mais c'est inquiétant, non pas simplement parce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre pour prendre avantage, je ne sais pas, lui voler quelque chose par exemple, mais on peut imaginer des malfaiteurs, des terroristes, qui déjouent les systèmes automatisés dans les aéroports ou à d'autres endroits pour passer les services de vérification et puis aller là où ils devraient pas pouvoir aller. Donc bon, c'est pas la peine de paniquer non plus tout de suite, mais c'est important à savoir que les masques de très haute qualité peuvent déjouer ces systèmes visiblement à grande échelle. YouTube a indiqué qu'ils allaient changer leur système de modération en incluant les insultes, différents types d'insultes, en plus de, disons qu'ils étaient assez stricts sur ce qu'ils considéraient comme contenu interdit et il fallait que ça soit des menaces directes. Là, ils vont inclure aussi les insultes. On vous avait parlé de différents cas où le YouTube ne supprimait pas des vidéos alors qu'il y avait des choses qui étaient poussées presque à un niveau de harcèlement. C'était l'affaire Steven Crowder contre Carlos Mazza, qu'on avait évoqué il y a quelques mois. Et bien là, justement, ils ont mis à jour leur politique de manière à pouvoir agir quand il y a des insultes caractérisées. C'est encore une fois une de ces grandes sociétés qui se retrouve obligée de faire la police. Peut-être que YouTube devrait penser à un système décentralisé aussi, peut-être, je ne sais pas. Microsoft a amené sa première application Office sous Linux. Donc, utilisateurs de Linux, soyez heureux, vous allez enfin pouvoir utiliser Microsoft Office, ou en tout cas Microsoft Teams, qui est la première application qui est disponible. Je plaisante, mais c'est quand même cool de voir que Microsoft s'intéresse à Linux. Comme on le dit à chaque fois, quand on met ces deux mots dans la même phrase, Microsoft et Linux, il y a quelques années, ça aurait fait... je ne sais pas, ça aurait paru invraisemblable. Et enfin, Fortnite continue à être incroyable dans sa promotion son aspect publicitaire et l'utilisation que fait Epic de ce jeu au succès immense. C'est un phénomène de société. Il y a eu un événement Star Wars 9 dans Fortnite ce samedi, c'est-à-dire que si vos enfants ou vos petits cousins voulaient absolument jouer à Fortnite pour voir ce qui se passait dans Star Wars ce samedi, c'est parce qu'il y avait un événement, c'est-à-dire qu'on se connectait au jeu et on allait dans un endroit spécifique de la carte du jeu et il y avait un grand écran qui passait un extrait exclusif de Star Wars 9 et un événement en jeu en plus avec une interaction avec J.J. Abrams et des créateurs du film. Et donc, c'est un truc qui est assez unique dans le domaine des jeux vidéo et Fortnite continue à exploiter sa position incroyable pour faire des choses hyper intéressantes. Bon, ça fait beaucoup de sujets, ça fait quatre sujets vraiment très très différents, mais je vous donne la parole. Peut-être que, je ne sais pas si Marion a quelque chose à dire sur ces quatre sujets, ou l'un des quatre au moins.
Oui, c'est intéressant, là, Microsoft et Linux, le petit rapprochement est grâce à Microsoft Teams. Je trouve ça assez remarquable et on avait eu tendance à rigoler de Microsoft Teams quand il s'était lancé, mais Slack est un peu en mauvaise posture hein, actuellement. Hein.
Ouais, c'est vrai que Teams gagne énormément de terrain, notamment parce qu'il est inclus dans l'offre Office et que donc il y a énormément de gens qui l'ont sans avoir besoin ni de payer ni de l'installer individuellement. C'est vrai que c'est une grosse poussée. Le fait de l'inclure dans Linux, eh ben c'est dans la politique de Microsoft qui dit on est bien loin de l'époque où ils nous vendaient une boîte de Windows et une boîte d'Office. Maintenant, ils veulent juste être partout. Et effectivement, il y a plein de gens qui bossent énormément sur Linux et le fait d'avoir des membres de l'équipe qui peuvent discuter par Teams, c'est complètement logique. Mais c'était invraisemblable il y a quelques années, quoi.
Ouais, mais ça suit bien la bonne stratégie de Satya Nadella, franchement, qui a bien fait bien amorcé le tournant de Microsoft là-dessus. Hein.
On est d'accord, ouais.
Mais moi, pour avoir... il y a un an, en fait, depuis longtemps, on est sur HipChat, qui était une solution assez similaire à Slack et à Teams. Et en fait, l'année dernière, HipChat a fermé et on a fait tout un tour de marché. Ça m'a pris du temps où j'ai testé chaque solution, donc celle de Facebook, celle de Google, d'autres aussi. Et en fait, on s'est rabattu sur Slack parce que rien n'était du niveau de Slack. Et moi, ça m'avait fait de la peine. Parce que je m'étais dit, bon, c'est ce que tout le monde conseille de façon un peu spontanée. Teams était un peu moins évolué il y a un an et demi, c'est ça. Ils ont fait des énormes efforts. Donc, moi, je suis content qu'il y ait une alternative qui soit viable par rapport à Slack. Surtout que c'est très cher. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment cher. Chez nous, on est rapidement à plusieurs centaines d'euros par an.
Pour 30 personnes. Tu veux dire ?
Ouais, pour Slack, quoi, 30 personnes.
Même plus que ça, oui. Ça dépend du forfait, du type d'op qu'on prend. Mais moi, je l'ai regardé parce que les patriotes, les gens qui soutiennent l'émission, on a au niveau $2 un Slack pour interagir ensemble. Je vous en parle souvent, c'est un endroit super sympa. Et j'ai regardé ce que ça coûterait de débloquer les fonctions pro. Et c'est quelque chose comme 6 € par utilisateur et par mois. Donc,
en fait, ça m'a coûté un peu moins de 1 000 € sur la première année parce qu'ils te font un beau discount sur la première année.
Ah oui, bien sûr. Mais là, je crois que l'année prochaine... Pour t'attirer et que tu puisses plus t'en passer, quoi.
Ouais, j'ai regardé là, je viens de regarder pendant que tu parlais, on est à 2 000 € par an, quoi. 2 000 € par an, c'est beaucoup.
Est-ce que vous utilisez Office, du coup ?
Non, nous, on est sur Slack, mais on utilise Google Documents à côté, donc on paye... On paye Google à côté, on paye les Google Apps parce qu'on utilise Gmail et Google Documents.
Mais est-ce que ça te passerait par l'esprit de passer du coup sur Office qui intégrerait tout ça ?
C'est pas simple parce qu'on utilise des scripts assez poussés d'intégration de nos outils de dev, aussi éditoriaux avec Slack, mais aussi avec Google Documents, avec beaucoup d'API. Donc, le switch serait assez coûteux en termes de temps et d'énergie.
Ouais, je pense que c'est la même chose du côté d'Alan hein, pour ça. On a beaucoup d'intégrations assez poussées entre Slack et d'autres applications qu'on utilise.
J'imagine aussi que les services ou le service qu'offre Office et Microsoft en général, c'est pour les très grandes entreprises. Quand on est une entreprise de taille moyenne, on est encore, on n'a pas vraiment besoin de ce genre de choses. Il y a Active Directory et toutes ces choses-là qui font des merveilles du côté d'Office et c'est moins nécessaire quand il y a une boîte de quelques dizaines d'employés. Quand on commence à atteindre un millier ou plus ou quelques centaines, là, c'est peut-être plus intéressant de considérer Office.
Et surtout, on paye Slack pour des choses un peu... Voilà, nous, pourquoi on paye Slack, c'est pour les archives. Donc, il paraît que c'est important pour les équipes, mais je peux comprendre, de retrouver les archives de chaque room, de chaque projet, retrouver les messages et les fichiers qui ont été envoyés. Mmh. Le second truc, c'est qu'on peut inviter des gens externes, par exemple des piégistes ou des freelances dans certaines rooms. Ça, c'est une option payante, etc. Mais chacun trouvera après les avantages
et les
inconvénients et pourquoi il faut payer Slack. Mais on en fait, dès qu'on a une activité importante, on arrive souvent sur la version premium.
Ouais, bien sûr. Et à propos de, pardon, oui. Non, à propos du prix, c'est aussi un truc que Jeff nous dit souvent. Slack, oui, c'est cher, mais du coup, leurs utilisateurs, c'est des utilisateurs qui sont payants et qui leur rapportent de l'argent. Donc, au niveau de la société, c'est bien gentil d'offrir les services gratuits, super gratuits pour tout le monde et de faire de l'argent sur la masse avec généralement de la pub. Mais Slack est une société qui est pas unique, mais enfin qui est rare dans le monde de la tech, dans le monde des startups et des licornes de la tech. Parce que leurs utilisateurs, leurs vrais utilisateurs, tout le monde les paye. Donc, c'est très différent de ce qu'on voit souvent ailleurs. Et puis, on va conclure avec... on ne peut pas ne pas parler du combat entre les États-Unis et la Chine. Il semblerait, selon certaines sources, que le président Trump ait trouvé un accord limité avec la Chine qui pourrait permettre de sortir d'affaires certaines sociétés, dont Apple, de ces histoires de taxes supplémentaires. Alors, selon le Wall Street Journal, c'était censé être annoncé là, hier ou aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas, clairement, mais ça continue à indiquer que les négociations entre les deux pays continue. Et bon, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez en tirer. Justement, à propos de Huawei, pour les conclusions, il y a un système assez intéressant qui a été trouvé par la France pour le cas où il est finalement déterminé que les produits Huawei sont un danger pour la sécurité nationale, ce qui reste une interrogation qui reste complètement théorique pour le moment. Ils ont établi un système où il faut approuver les matériels qui sont utilisés dans les infrastructures essentielles du pays. Et si jamais la demande d'approbation reste sans réponse pendant, je ne sais plus, je crois que c'est un délai de 2 mois, eh bien ça veut dire que le système n'est pas approuvé. Et c'est assez malin, parce que, comme vous le disiez sur Numérama, parce que ça veut dire que la France peut ne pas approuver un contenu, un matériel Huawei sans dire qu'il est interdit. Donc, c'est juste une petite astuce administrative, légale en fait, qui est assez maligne. Et puis, vous avez sans doute entendu parler de l'histoire de cette petite fille qui a été harcelée par une caméra Ring. Vous savez, ces caméras connectées dont on parle beaucoup ces derniers temps. Une caméra Ring qu'avait achetée sa maman pour pouvoir la surveiller quand elle n'était pas à la maison ou quand elle était dans une autre pièce. Et la caméra a été hackée et la personne qui l'a hackée a fait passer de la musique, a dit des choses, s'est fait passer pour le Père Noël, lui a demandé de faire des choses, genre de casser des trucs dans sa chambre, etc. Évidemment, c'est horrifiant. Mais juste pour vous dire que la raison de ça, c'est que l'appareil connecté à Internet avait un mot de passe. Alors, on ne sait pas si c'était un mot de passe simple ou un mot de passe par défaut qui n'a pas été changé, mais c'était visiblement, le hacker était passé par le mot de passe. Donc, c'est le cas pour tout, mais d'autant plus pour ça, ce type d'appareil, il est important de faire attention à ce que le mot de passe d'accès soit bien sécurisé.
Ouais, c'est vrai que les pauvres Ring sont fait critiquer, mais en fait, leur système, il n'a pas été touché. Mais je pense que l'erreur qu'ils ont fait, c'est de ne pas imposer, voire, c'est-à-dire conseiller, voire imposer la double authentification, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Et surtout, ce qu'on dit aux gens, du coup, c'est activer la double authentification. C'est chiant, mais il faut le faire.
Et, surtout sur des appareils comme ceux-là, quoi.
Ah ouais, surtout, mais partout presque. Mmh. Et j'ai envie de dire, et surtout, utiliser des mots de passe différents entre les services, avec des mots de passe qui sont un minimum complexes. Mmh. Parce que là, ce qui s'est sûrement passé, c'est que la caméra Ring qui a été configurée par la maman ou le papa, ils ont trouvé le mot de passe qui avait été hacké sur un forum ou je sais pas quoi.
A priori, ça serait ça. Ouais.
Voilà. Donc c'est très classique et ça doit arriver beaucoup plus que ce fait divers qui a été beaucoup médiatisé, mais ça doit arriver très souvent.
Ouais, mais bon, la gravité avec une caméra placée dans une chambre d'enfant, là, ça fait quand même une vraie mauvaise pub. Hein.
Ah, c'est fou, sûr, mais c'est pas le problème de Ring. C'est fou.
Ben,
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. C'est quand même, ça montre aussi le danger de leur business et que leurs produits, bah, comme tu dis, hein, ils auraient pu très bien forcer les utilisateurs à activer la double authentification ou c'est mettre sûr. Des standards de mots de passe qui sont un peu plus complexes.
Là, ils ont fait une erreur, je suis sûr, mais c'est sûr. Mais par contre, bon, la caméra sécurité, c'est quand même quelque chose aujourd'hui de basique. Donc,
Disons que non, mais c'est en fait la combinaison des deux de vos deux discours, c'est que oui, c'est quelque chose de basique, mais vu les possibilités que donnent ces appareils, il y a une certaine responsabilité du fabricant d'être encore plus prudent qu'avec un autre type d'appareil. Donc moi je crois que il y a effectivement, c'est pas vraiment de la faute de Amazon, puisque c'est Amazon qui a racheté les caméras Ring, mais c'est peut-être quand même, ils ont une part de responsabilité.
Enfin bon, Amazon, ça fait plusieurs mois, ils auraient pu imposer un minimum de... Et surtout que beaucoup de services imposent la double authentification, donc moi, c'est vrai que je suis d'accord sur cet aspect, pour moi, ça devrait être obligatoire, tout ce qui est lié sécurité et données personnelles.
Mais... Ouais.
Donc, beaucoup de choses.
Ouais, on est d'accord. Bon, et dernière nouvelle pour ceux qui ont des jeunes encore dans leurs entourages. Non seulement vous savez que ce qui se passe du côté de Fortnite, mais maintenant, sachez-le, PewDiePie, le YouTuber favori des jeunes dans le monde entier, avec plus de 100 millions d'abonnés, a décidé de faire une pause YouTube début 2020. Alors, il n'a pas dit combien de temps ça allait prendre, mais c'est encore un exemple du fait que ce métier de YouTuber est vraiment pas facile. Alors bon, lui, c'est pas quelqu'un qu'on va plaindre, il gagne énormément d'argent pour ce qu'il fait. Et puis, je vous avoue, j'ai regardé sa dernière vidéo, c'est quand même à la fois la forme et le contenu, moi je le trouve très bas de plafond. Et il parlait de sujets sérieux en plus, et il traite ça un petit peu n'importe comment avec beaucoup de... Enfin bon, bref, je trouve pas ça super, mais il n'empêche, il a l'air, et il en parle, hyper fatigué, et c'est un boulot qui est vraiment pas facile. Streamer et YouTuber, je vous assure, c'est facile de les critiquer, mais bon, enfin, ils sont pas en train de... C'est pas des infirmiers ou des pompières ou des gens qui travaillent à la mine, hein, mais c'est pas un boulot simple. C'est pas juste je me mets devant la caméra et je fais le clown. C'est beaucoup plus dur que ça.
Mais il a fait des vidéos tous les jours depuis plusieurs années. Bon, après, je crois que l'année dernière, il a gagné plus de 15 millions de dollars. Donc,
disons qu'il peut se permettre de faire une pause, quoi.
Il a raison. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que j'ai vu le traitement des médias, et d'ailleurs, lui-même l'a critiqué sur son compte Twitter. Genre, les médias ont dit « il quitte Twitter », etc. Et ils ont fait le parallèle avec les affaires qu'il y a eu, vous avez suivi, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Christchurch. Et en fait, donc le gars avait dit, c'est en regardant des vidéos de ce youtubeur que j'ai été poussé à faire ça, et il avait tout de suite répondu que c'est quelque chose d'horrible. Il y avait aussi la polémique sur son don qu'il avait fait à une association antisémite. Il avait été obligé de retirer les 50 000 dollars qu'il avait fait de don.
Je ne crois pas que c'était une association antisémite, au contraire, je crois que c'était...
Non, une anti-antisémite.
C'est ça, qui se battait contre la haine raciale et l'antisémitisme, ouais. Et il l'a contre retiré... Ouais. Et il l'a retiré parce que certains lui ont dit « Ah mais oui, mais regarde, ils t'ont critiqué par le passé, à l'époque où il avait été accusé, lui, d'antisémitisme. » Enfin, bon, franchement...
En fait, il a vécu une année qui n'est pas non plus très simple. Et même si il a 30 ans et il a été un peu stupide à de nombreuses reprises, il a quand même beaucoup de responsabilités sur son dos, quoi.
Ouais. Ouais, franchement, moi, je l'ai défendu sur le principe à différents moments. Je pense quand même, enfin, il m'a pas l'air d'être quelqu'un d'hyper... mature, mais oui, c'est pas aussi simple que certains veulent le faire penser, quoi. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer cet épisode et du coup clôturer l'année. Bon, il y a les épisodes spéciaux qui arrivent, comme je vous le disais, mais c'est le dernier épisode d'actualité puisqu'on arrive à la fin du mois de décembre 2019. Donc, merci à tous les deux de m'avoir accompagné dans cette petite heure de tech et de bonne humeur. Avant de se quitter, bien sûr, Marion, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ?
Oui, bien sûr, mais vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur la chaîne Naotech et puis toutes les semaines, sur l'émission du matin, Le Mug. Voilà, et ravi d'échanger avec vous sur les différents sujets abordés dans le rendez-vous tech aussi. Avec plaisir sur Twitter au pseudo Aizea Design.
Le lien sera dans les notes de l'émission, tout comme celui de Monsieur Rosier. Où te retrouve-t-on, Ulrich ?
Bah alors, moi j'écris un peu sur Frandroid, sur mon temps libre, c'est toujours un plaisir. Et principalement sur Twitter, donc Ulrich Rosier, c'est là où je passe le plus de temps. J'ai l'impression d'être trop jeune pour Snapchat et trop vieux pour Facebook. trop jeune pour Facebook et trop vieux pour Snapchat, du coup je me retrouve bien sur Twitter. Quoi.
D'accord.
Et même si des fois j'ai pas l'impression d'être à ma place Instagram. Instagram, c'est pour les vacances.
Ah, d'accord.
Non, mais franchement, quand tu vas là-bas, t'as plus l'impression de voir tes potes qui sont en vacances. D'ailleurs, moi, je poste des photos seulement quand je suis en vacances. Et vous verrez qu'il n'y en a pas eu de postées depuis mars, et ça, c'est un problème.
Bon, très bien. Eh bien, écoute, ton lien Twitter sera dans les notes de l'émission également. Tu voulais ajouter quelque chose, Marion ?
Non, je ça m'a fait rire quand Ulrich a dit justement qu'il n'avait pas pris de vacances depuis mars.
Non, j'ai pris quelques jours en juin, mais franchement pas assez là sur la fin d'année.
Oui, il faut prendre. Fais donc comme PewDiePie, même si tu gagnes pas 15 millions en 2019.
C'est pas possible, j'ai 30 personnes à payer.
Mais toi, t'es pas loin, t'es un patron d'industrie avec une armée de sites internet, on sait bien, voyons Ulrich.
Déjà que quand je vais en vacances, je reste connecté tous les jours, je réponds à mes mails. Alors t'imagines, si je dis je prends une pause, ça va être la même chose, quoi. Ça va être pour la forme, mais derrière, je veux quand même...
Oui, j'imagine. Bon, en tout cas, si vous voulez continuer à nous écouter, nous, on ne prend pas vraiment de pause. On a ces épisodes spéciaux qui vous attendront le 24 et le 31, c'est quand ? Mardi. Je ne sais pas si je les posterai mardi, mais ça sera dans ces eaux-là, a priori mardi. Et ils sont, comme je le disais, super intéressants. Je pense que ça vous plaira. Il y en a un sur la sécurité et les ransomware, comme je vous le disais, avec Corben, et un avec Benoît Curdi sur la manière dont l'administration publique et la tech peuvent interagir et la manière dont ils ont besoin l'une de l'autre. C'était hyper intéressant. Vous entendrez ça dans une et deux semaines. Et pour ma part, c'est sur Twitter, Note Patrick, sur Twitter, Facebook et Instagram, sur frenchspin.fr pour cette émission et le rendez-vous jeu. Si vous appréciez un petit peu le jeu vidéo et que vous n'écoutez pas l'émission en général, le prochain devrait vous plaire. On l'enregistre cette semaine et on va parler des meilleurs jeux de l'année. Donc, c'est l'épisode à ne pas rater. C'est comme le rendez-vous tech, mais avec jeu à la fin au lieu de tech. Et bien sûr, si vous appréciez cette émission et que vous voulez contribuer, c'est sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Vous avez juste besoin de retenir que tout est dans les notes de l'émission. Le vote pour le rendez-vous jeu, Histoire de Daron, et tout le reste et les liens vers Twitter. Donc allez faire un petit tour dans les notes et vous aurez tout ce dont je vous ai parlé. Je vous fais de grosses bises, je vous souhaite une excellente fin d'année, bonne fête, et on se donne rendez-vous en 2020. Ciao à tous.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.